Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons pour la dernière fois afin de parler de la programmation neurolinguistique. Je rassure les auditeurs, ce n'est pas la dernière fois que vous êtes dans les studios pour échanger avec nous, pour nos auditeurs, autour de la notion de coaching et de tout ce qui s'y rattache. Donc nous parlons de PNL depuis un certain nombre d'émissions. Nous avons évoqué la question des représentations, le fait que la carte n'est pas le territoire. Nous allons y revenir aujourd'hui. Nous avons parlé aussi des différents sens qui font que se produit ou pas d'ailleurs une certaine synchronisation verbale entre deux interlocuteurs. Nous avons aussi évoqué les imprécisions du langage et la nécessité de les détecter, hein, parce que ces imprécisions nécessitent que l'on précise, évidemment, c'est logique. Alors aujourd'hui, comment allez-vous nous conduire dans la réflexion de manière à améliorer une fois de plus notre langage et nos relations par conséquent ?
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de processus interne, d'état interne et de comportement externe, sachant que ces trois choses, PI, processus interne, EI, état interne, CE, comportement externe, sont liées les uns avec les autres. Et que la manière dont nous allons traiter l'information dans notre cerveau va générer des émotions. Par rapport à cette interprétation, nous allons ressentir un certain nombre d'émotions, positives ou négatives, qui vont générer des comportements.
Ça veut dire que
adéquats ou inadéquats.
Adéquats ou inadéquats. Donc ça signifie que nos émotions, finalement, dirigent notre comportement ?
Elles peuvent les diriger si nous n'en avons pas conscience, si nous ne portons pas suffisamment d'importance à notre ressenti. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me sens en colère, soit je laisse filer la colère et mon comportement sera un comportement peut-être agressif, soit j'essaye de comprendre la raison pour laquelle je suis en colère et je peux à ce moment-là stopper mon comportement externe qui ne serait pas adéquat.
À nouveau, il y a la nécessité d'une prise de recul par conséquent.
Tout à fait. Toujours cette fameuse observation, observation de l'autre et observation de soi-même. Donc là, je vais vous donner un exemple. Je vais repartir du processus qui se passe de la manière dont on capte l'information. Donc, nous avons vu qu'il y avait des phénomènes qui vont se passer. Donc, nous captons les différentes informations. Et ces informations, donc, arrivent dans le cerveau avec tous les sens que nous possédons. À ce moment-là, nous allons donner une signification à cette information. Donc soit par exemple vous me dites quelque chose et ce que vous allez me dire je vais forcément l'interpréter. Soit je vais l'interpréter de manière positive, soit je vais l'interpréter de manière négative.
C'est-à-dire ?
Dites-moi quelque chose.
Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?
Alors, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Soit je l'interprète d'une manière positive en me disant « effectivement, on va passer une très bonne journée, c'est plus important d'être avec le soleil pour travailler » et à ce moment-là, je vais être dans un état émotionnel plutôt positif et je vais vous inviter à commencer notre travail et puis nous allons travailler tout à fait normalement. Ou alors, simple fait que vous me disiez « qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» J'interprète que effectivement je suis au travail alors que j'aurais tellement envie d'être ailleurs et que justement ce beau temps m'invitait à faire tellement autre chose que d'être là, mon ressenti va être beaucoup moins positif et vous avez généré du négatif chez moi sans le vouloir. Et là, je peux devenir tout d'un coup peut-être agressive en disant à mon collaborateur, à vous-même qui seriez mon collaborateur, « Bon, allez, on se dépêche, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. » Et à ce moment-là, vous vous demandez pourquoi tout d'un coup, je suis aussi disgracieuse.
Donc ça passe par le ressenti, l'émotion.
Voilà. Donc là, effectivement, quand vous m'avez dit « qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» c'était à la fois inattendu, mais en même temps tellement intéressant, puisqu'on peut se rendre compte qu'avec n'importe quelle phrase, nous ne savons pas ce que nous allons générer chez l'autre. Mmh. Voilà. Après, un autre phénomène qui est beaucoup plus courant, qu'on utilise chaque fois que l'on peut pour expliquer processus interne, comportement externe, vous attendez quelqu'un et cette personne est en retard.
Ça n'arrive jamais.
Voilà, jamais. Donc que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, ces choses-là arrivent malheureusement assez souvent. Et donc comment allons-nous réagir à ce retard ? Voilà. On va prendre un cadre professionnel. Vous êtes nouveau manager, ou alors vous n'êtes pas nouveau manager, vous êtes patron, mais les informations que vous avez à donner sont d'une extrême importance et vous souhaitez que tout le monde soit là. Or, vous commencez votre réunion, une personne arrive en retard. Et cela peut être très contrariant. Donc, ce que vous voyez, finalement, c'est une chaise vide. Et on parlait des cinq sens. Vous captez l'information via le fait que vous voyez la chaise vide et que peut-être vous n'entendez pas la voix de la personne. À ce moment-là, vous allez interpréter. Et donc, si vous interprétez le fait que cette personne a probablement des soucis d'organisation, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour venir, mais que probablement c'était pas facile pour elle, mais qu'elle est dans un effort pour venir à cette réunion, et que finalement c'était beaucoup d'embarras pour elle d'être présent, vous allez avoir comme émotion une émotion peut-être d'empathie, de compréhension, de sympathie pour cette personne qui se donne tant de mal pour être présent. Et lorsqu'elle va arriver, eh bien, vous serez peut-être accueillant ou remerciant la personne d'être là. Et donc, votre comportement sera un comportement d'accueil. Vous êtes toujours dans la même situation. Il manque une personne, hein, donc même chose. Vous voyez la chaise vide. Vous n'entendez pas le son de la voix de la personne. Donc, les faits sont les mêmes. Sauf votre interprétation va être différente. Là, vous allez vous dire, oh là là, c'est pas normal qu'elle ne soit pas là. Elle a peut-être eu un accident. Vous ne comprenez pas cette absence. Donc là, l'émotion qui est générée, c'est de l'inquiétude. Et donc, quand la personne va arriver, vous allez peut-être être redoublant de reconnaissance, mais vous allez dire « Ah, je suis tellement content que vous soyez là, ça me fait plaisir, j'étais inquiet ». Enfin, donc, vous allez avoir un comportement très empathique, très soutien, très maternant. Et la personne va peut-être trouver cela un petit peu trop fort. Voilà. Et toujours la même chose, la personne n'est pas là, donc vous voyez toujours la chaise vide, vous n'entendez toujours pas le son de sa voix. Mais là, par contre, vous êtes tellement tendu parce que les informations que vous devez donner sont tellement importantes et vous ne vous sentez pas très à l'aise pour le faire. Ou alors, c'est la première fois que vous allez parler de ce domaine-là. Et le fait que vous voyez cette chaise vide et que vous n'entendez pas le son de la voix commence à vous contrarier énormément. Et quand la personne arrive, eh bien, vous êtes très en colère parce qu'elle vous dérange. Elle dérange le processus que vous aviez mis en place qui était « je commence à telle heure, je dis telle chose, etc. » Et vous posez la question « Est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends pas? Est-ce que je lui dis de s'asseoir? Est-ce que je lui dis de repartir ?» Donc vous êtes très contrarié et vous vous demandez même qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas là. Et à ce moment-là, c'est plus de la colère ou de la contrariété qui va être générée comme émotion. Et je pense que vous n'allez pas accueillir cette personne de manière la plus polie et la plus agréable qui soit. Donc ça sera au mieux de l'indifférence et au pire, une remarque désagréable.
Alors si la première réaction est plus positive que la seconde, par contre, toutes les deux ne correspondent pas nécessairement à la réalité de la situation de la personne qui arrive en retard.
Exactement. C'est-à-dire que le retard peut être interprété selon notre position sociale, selon notre éducation, comme un véritable manque de savoir-vivre. Et à ce moment-là, c'est plutôt la contrariété, la colère qui vont apparaître. Ou alors, ça peut être indifférent dans le sens où on se dit, ben, c'est pas de chance pour elle, elle va manquer les informations. Mais en ce qui me concerne, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et donc, on est beaucoup plus distant par rapport à cette interprétation.
Oui, justement, comment faire pour avoir un positionnement le plus adéquat possible ?
Eh bien, déjà, se dire, si c'est la colère qui monte, qu'est-ce qui fait que je suis en colère ? Est-ce que c'est si important que cela, de me mettre en colère pour cela ? Et aussi, quand on travaille sur soi, on est de moins en moins pris au dépourvu par ses propres émotions. C'est-à-dire qu'on a compris qu'est-ce qui faisait que certaines émotions étaient plus présentes que d'autres à certains moments. Et à partir du moment où on comprend très bien nos propres modes de fonctionnement, on est tout à fait capable de dire à nos émotions « Ok, mettez-vous en stand-by, ce n'est pas l'important pour le moment. » Pour le moment, il n'est pas important que je sois contrarié par le fait que cette personne ne soit pas là. Ce qui est important, c'est que je fasse ce que j'ai à faire, c'est-à-dire à donner les informations que j'ai à donner.
Est-ce que cela veut dire qu'il faut étouffer nos émotions ?
Alors,
les faire taire ?
Les faire taire. Je préfère les faire taire à étouffer, ou en tout cas à leur dire, écoute, c'est pas le moment. Voilà, on fera attention à toi tout à l'heure.
Personnellement, j'ai un petit peu peur de la cocotte minute aussi qui boue et qui tout à coup risque d'exploser, non ?
Si c'est le cas, il faut peut-être après la réunion aller voir la personne et une fois qu'on est un peu plus détendu, lui dire qu'on n'apprécie absolument pas ou on n'a pas du tout apprécié le fait qu'elle était en retard. On peut aussi aller lui demander la raison du retard. Ensuite, je dirais que là, on prend des exemples un peu sortis de leur contexte. Mmh. Effectivement, le contexte de la situation va plus ou moins générer certaines émotions. Mais sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui, c'était vraiment mettre en évidence qu'une même chose, la vision d'une chaise vide, par exemple, peut être interprétée de différentes manières selon, déjà, notre état, justement, de stress ou pas. Et selon les interprétations, selon nos coutumes, selon notre éducation, eh bien, on va générer des émotions différentes. Ensuite, à nous d'essayer de comprendre nos émotions et de ne pas avoir des comportements externes qui seraient complètement en démesure de l'événement.
Est-il possible, Christine Huchette, de sortir de l'interprétation ?
C'est un gros travail. Je n'oserais pas dire qu'on puisse sortir de l'interprétation tout le temps. Mais je pense qu'à certains moments de la journée, dans certains postes, il est important de sortir de l'interprétation.
Donc améliorer nos relations au travail ou en dehors du travail, dans tout contexte, je pense qu'on peut étendre, eh bien améliorer nos relations, ça passe aussi par le fait de cesser d'interpréter tout le temps.
Alors je pense qu'on ne peut pas cesser d'interpréter, mais je pense qu'on peut analyser nos interprétations.
Mmh. Voilà. Les vérifier.
Les vérifier.
Ok. Donc ça, c'est quelque chose que permet en particulier la PNL.
C'est un modèle oui, proposé par la PNL. Et je reviendrai, si vous le permettez, à la notion de cocotte minute qui était très très intéressante. Par exemple, pour cet effet cocotte minute, il m'arrive de dire aux personnes qui justement sont très sensibles à ces notions de retard, de se donner, par exemple, dans un cadre, on est plutôt personnel. Hein. Il y a des personnes, elles vont se sentir en retard, d'ailleurs il y a des personnes qui ne sont jamais en retard, d'autres qui vont se sentir en retard 5 ou 10 minutes après l'heure fixée, et pour certaines personnes ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Et là aussi, on est dans les représentations. C'est-à-dire que si vous interviewez un groupe de 12 personnes, vous aurez 12 notions de retard qui sont complètement différentes. En allant de « je ne suis jamais en retard » jusqu'à « oh ben, si c'est pas plus qu'une demi-heure, ça
va ».
Bon. Alors si vous, vous êtes dans le cadre 10 minutes, ben, il est clair qu'à partir de la 11e minute, le côté cocotte minute va commencer à se mettre en œuvre. Et là, moi, je propose dans ces cas-là de dire aux personnes, ben, écoutez, vous vous donnez un temps maximum, c'est-à-dire vous dites à la personne qui arrive régulièrement en retard, écoute, moi, je t'attends 15 minutes. Si au bout de 15 minutes, tu n'es pas là, je m'en vais. Et là, c'est un moyen comme un autre de faire tomber la pression. Puisque vous savez que vous maîtrisez, et on en revient à la notion de maîtrise, et on se réfère à ce qu'on disait sur le stress, là vous n'êtes plus victime ou dépendant de l'autre, mais vous maîtrisez quelque chose.
Très bien, eh bien, nous allons nous arrêter avec ces réflexions-là. Merci Christine de les partager, il y a de quoi faire, hein. Il faut laisser mûrir tout cela de manière à pouvoir mettre en pratique aussi au quotidien, c'est l'essentiel et c'est la raison d'être de ces chroniques.
Merci Fabrice de votre invitation.
Avec grand plaisir et à très bientôt.
À très bientôt.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.